Le premier projet,
Ouais.
en effet, ce sont des cartes postales et des illustrations. Et l'idée, c'était de revenir sur cette idée de la personnalisation de la relation qu'on peut créer dans un projet de recherche. Alors là, justement, c'était le sujet sur les patients à domicile, en dialyse à domicile en temps de pandémie. Donc là, on a été coupé de nos outils d'habitude, hein, pas possibilité de faire d'immersion. Alors nous, avec ma collègue, on voulait d'emblée aller à domicile, la néphrologue qui nous dit « Patient fragile !» Non, non, hors de question. OK. Immersion dans les centres de dialyse et les hôpitaux. Très difficile d'accéder à tous les soins de maladies chroniques en temps de pandémie parce qu'on était tellement focalisé sur la COVID-19 que perte de chance pour tous les autres. Donc, pas bon moment, c'est pas le moment d'aller voir les soignants. Donc, comment on fait pour créer une relation? Et c'est vrai que le premier terrain qu'on a fait ne nous a pas du tout rassurés sur le numérique. On était à fond à cette époque sur les ateliers en ligne et on s'était essayé à certains, mais bon. Et on voit que il y a une réticence du côté des patients, ceux qu'on rencontre, ils sont pas du tout intéressés par participer à quelque chose de numérique. Et puis en plus, pour parler de chez eux. Et puis, en y réfléchissant, je me dis, ben, la communication épistolaire, quoi. On ne peut pas accéder à chez eux, et bien on va s'écrire des cartes postales. Puis ça a pris un peu l'idée, on s'est beaucoup inspiré avec ma collègue qui est designer. D'un courant qu'on appelle justement l'art autour justement du Rhin. Donc c'est un courant qui existe notamment dans la culture anglo-saxonne où on représente les Rhins mais de manière très florale. Donc on est parti sur cette idée un peu poétique, reconnectée avec un organe en plus qu'on considère pas trop hein, dans notre société. Et puis voilà le kidney art, c'est ça. Le courant. Et puis, ben du coup, à l'occasion de l'envoi de la lettre de consentement pour qu'ils participent à l'étude, on leur envoyait nous-mêmes une carte postale de notre région et on se racontait nous-mêmes. Et donc, là, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer comme photo, c'est celle-là. Donc, on a une carte postale, c'est celle que j'ai envoyée de ma ville, de Rezé. Et puis ici, c'est la carte postale envoyée par un patient. Alors, on a organisé une exposition ensuite avec ses supports. Et là, j'ai mis un extrait de verbatim qui m'avait beaucoup touchée. Hein. J'habite dans un village de 1500 âmes. Je suis mariée. J'ai 3 enfants et 9 petits-enfants. Et c'était important pour nous parce que ce qu'on voulait raconter, c'était le vécu non médical et j'aime beaucoup aussi l'autre. Ensuite, on leur a envoyé un kit postal. Donc, on leur a envoyé une première carte postale. Ils nous ont envoyé la lettre de consentement. Et là, pendant 3 semaines, ils avaient un appareil photo et un petit guide où ils faisaient des photos sur plusieurs thèmes. Leur vie quotidienne. Eux, d'abord, on voulait qu'ils se présentent. Donc, on a reçu des photos de eux avec leur famille. Donc, c'était très touchant parce que ça veut dire qu'on a construit une relation. On s'est échangé ces cartes avant les ateliers. On se connaissait bien. On est passé au tutoiement, ce qui a posé plein de questions aussi au plan éthique. Hein, mais on s'est engagé aussi en racontant nos vies. Et puis, ce qu'on a réussi à rendre visible, c'est ce vécu non médical. Hein, cette patiente qui nous dit qu'elle adore justement, elle habite près de Vannes. Ben, c'est ça qui la tranquillise, les bateaux, ce petit bout de terre, et dès qu'elle peut marcher. Et donc, ça a été intéressant parce qu'ensuite, on s'en est servi pour faire une exposition dans le premier atelier. Et l'idée, c'était de faire une exposition qui mêlait ces photographies documentaires produites par les patients, mais aussi des illustrations. Et pourquoi on a fait ces illustrations? Parce qu'en fait, on ne pouvait pas. On a quand même, au bout de 6 mois, pu faire des immersions à domicile. Donc là, on a vraiment construit aussi cette relation avec les patients. Mais on ne pouvait pas prendre de photos avec nos téléphones portables. Et c'est vrai que dans le co-design, on utilise beaucoup nos appareils techniques du quotidien aussi. Bon, là, le protocole faisait qu'on ne pouvait pas le faire. Puis c'était trop compliqué, même avec un appareil photo numérique dédié, parce qu'on n'avait pas de base de données. Donc, OK. Donc c'est là que j'ai dit, on va faire avec un photographe, on va prendre des appareils photo jetables, comme ça il va nous accompagner. Mais par contre, on va raconter ce qu'on a vécu à une illustratrice en assumant la fiction pour mettre l'accent sur des situations qu'on a observées, mais ce ne sera pas un patient, mais un mélange de situations. Et finalement, ça nous a permis de raconter 3 situations contrastées de vie avec la dialyse à domicile. Une qui se passe plutôt bien, où la machine est oubliée, la maladie est intégrée, acceptée dans la famille. Une où ça se passe pas bien, on voit que la pièce est envahie de carton, mais la maladie a été mal acceptée. Et une où c'est en centre de dialyse et c'est ma deuxième famille, le patient c'est le DJ de la salle. Et donc ça, l'idée, c'était vraiment d'assumer la fiction aussi pour dire, ben, on va raconter et on va avoir une illustratrice qui va traduire dans une forme graphique, donc ça joue sur les couleurs, les angles, la manière dont c'est plus ou moins chargé, ce qu'on a ressenti et qui est aussi un autre rapport du terrain. Donc on voit bien que ça a permis à la fois de rendre visible, on nous a demandé de travailler sur l'expérience patient, mais rendre visible, et en même temps, ça a créé de l'écoute. Parce que dans ce premier atelier, on a voulu que les soignants, je me souviens d'une parole d'un patient qui disait, voilà, les infirmières qui nous font les ateliers de TP, donc d'éducation thérapeutique, c'est pas possible que ce soit des infirmières hospitalières. Il faudrait que ce soit des libérales, parce que les libérales, elles ont conscience des contraintes à domicile. Elles y vont déjà et elles voient qu'on peut pas mettre l'hôpital à la maison. Moi, quand je dialyse, il y a toujours mon chat qui est avec moi. Voilà, par exemple. Et l'infirmière libérale, elle accepte. Donc l'idée, c'était de la matière à réaction pour créer cette écoute et que les soignants ensuite nous racontent leur propre récit en ayant pris la mesure, voilà, de ces récits de vie, de mélange de documentaire et de fiction. Donc là, par exemple, il a fallu à la fois créer la confiance, la relation sur le long terme et on va dire, on voit bien le rôle de la matérialité là pour créer l'écoute, pour créer. Tout, voilà, le fait, assumer l'émotion dans une démarche de recherche aussi et dire que c'est comme ça aussi qu'on va créer une communauté et qu'on va leur donner envie de revenir, qu'on soit raccord sur des valeurs plutôt que sur voilà, le produit fini et en fait avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire. Nous, on ne sait pas, on est ouvert et finalement les résultats que ça prend, c'est que bah, ça défie vraiment les premières idées du projet qu'il y avait eu. Donc, c'est intéressant.
Ça représentait une communauté de combien de patients?
Alors là, on a 10 patients qui ont participé à l'enquête par photo et on a une communauté d'une vingtaine de patients. Il y a aussi des associations de patients, donc des représentants des associations de patients. Et on est avec deux centres. Alors, on est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc l'hôpital de jour, le service du docteur Corinne Yerbanis. Et puis, on travaille aussi avec un centre de dialyse privé. Alors, c'est tous des associations, les centres de dialyse, qui se trouvent à Vienne, près de Lyon, parce qu'ils sont spécialistes justement de techniques de dialyse à domicile. Donc, l'idée, c'est d'avoir du privé, du public. Du lourd, du à domicile, du en centre pour essayer voilà
De mixer
d'avoir
tous les types d'acteurs possibles.
exactement. Alors après, dans les autres projets que je voulais vous montrer, il y avait voilà, l'idée aussi, c'est que je parlais tout à l'heure de créer de l'écoute, mais aussi faire participer. Et là, j'aimerais bien présenter ce projet. OPRIC, l'Observatoire participatif du risque canicule. Donc là, on est dans un projet ANR où on est venu me chercher justement à la fois parce qu'on pouvait opportunité de terrain dans le Gard, mais pour ces méthodes de co-design, un projet qui était avec le CNAM et l'UTT. Et du coup, là, l'idée, c'était comment on s'appuie sur les initiatives de populations locales en situation de crise pour essayer justement de définir des stratégies d'adaptation qui s'appuient sur les habitants en relation avec les institutions voilà, qui s'intéressent alors aux risques canicules. Donc on était sur cette question des risques, puisque c'est aussi un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, risques technologiques, risques naturels. Donc là, c'était sur le risque canicule. Bon, on nous demande d'aller enquêter avec la population. Alors nous, la population s'appelle des habitants, donc on veut comprendre leur réalité vécue. Donc pareil, processus d'enquête, difficulté avec la pandémie. Donc on organise une enquête sur la canicule avec les réseaux sociaux. Donc c'est dans le courant de la science participative, science ouverte. Et là, l'idée, c'était d'engager aussi les habitants dès le départ. Et donc, on a fait cette enquête où on a pendant un mois demandé de partager des photos sur les effets de la canicule sur moi, sur mes proches, sur mes animaux, sur l'environnement. Et finalement, ça a été hyper intéressant parce qu'on était dans une enquête ancrée dans le territoire du Gard. Et comme on l'a ouvert sur les réseaux sociaux, ben, on a eu l'image qu'on avait de la fontaine à Nîmes, on l'a retrouvée en Italie. Donc, c'était hyper intéressant d'ouvrir ça. Et puis est venu le temps du premier atelier. Et là, ce que je voulais présenter comme, au-delà de l'écoute, écouter, donner confiance aux participants pour qu'eux aussi ils soient en capacité d'agir sur les trajectoires possibles, ben, on a voulu proposer ce casque de voyage prospectif. Et je voudrais vous montrer comment on l'a incarné ensuite pour ben voilà, lui donner une vie, en fait, une possibilité. Donc là, l'idée, ben, il n'y a pas du tout de technologie dans ce casque, hein. Ce casque, vous le mettez, y a rien de connecté. Par contre, il y a un chaman, un scribe et un journaliste qui sont joués par d'autres participants de l'atelier. Donc là, dans l'atelier, le voyageur, là, c'est un habitant. Ah, derrière lui, avec le masque noir, c'est un chercheur. En face de lui, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la sécurité civile. Et à côté de lui, je me demande si c'est pas un pompier ou bon, voilà. En tout cas, il y avait à chaque fois des mélanges comme ça. Et puis, on a toujours un designer qui anime la table au cas où il y aurait des soucis. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez un scribe qui va vous lire un début de scénario. Donc, nous, on avait écrit plusieurs débuts de scénario sur des sujets diversifiés. Donc là, en l'occurrence, c'était ben voilà, c'est vous êtes à un groupe de makers et vous engagez justement pour ben, améliorer les conditions de vie à Nîmes. Qu'est-ce que vous faites? Et donc là, le voyageur commence à nourrir la fiction et chaque fois qu'il a des difficultés, il y a un journaliste qui est là, qui est joué par un autre participant et qui peut lui poser des questions. Et du coup, ça aide l'autre à préciser, parce que l'autre participant, en étant journaliste, il incarne sa peau de journaliste. Donc, en général, un journaliste, il construit bien quand même son interview et il la nourrit aussi. Et puis, il y a un scribe qui est un autre habitant qui le retranscrit. Et finalement, petit à petit, cette stimulation collective, ben, elle fait une histoire commune qui donne des pistes de solutions qu'on a incarné ensuite. Hein. Alors, au début, il y avait des choses un peu drôles qui étaient un partenariat avec Picard qui se met à faire des vêtements. Alors, comme dans le Midi Libre, puisque là, on a imité le Midi Libre un petit peu comme le courant des Yes Guys qui faisait que des nouvelles positives. Vous avez peut-être vu ça aux États-Unis. Genre, tous les
Oui.
frais d'inscription aux États-Unis sont gratuits. Bon, bah, c'était un peu inspiré de ça. Ben, nous, on avait fait même la pub. Hein, donc, on a fait une vraie page de Midi Libre dans laquelle l'idée un peu fun, eh ben, ça existe, ce partenariat avec Picard. Et donc, c'est une fausse pub. Hein. Et puis, on a surtout incarné cette idée qui était ben, d'essayer de. Voilà, c'est la ville de Nîmes qui s'engage. Alors, tout ça est faux, bien sûr, mais reprend tous les codes du Midi Libre, sauf qu'on est le 13 juillet 2036, pour incarner les pistes de solutions. Alors là, il y avait de l'architecture avec des termitières, ou alors des îlots de chaleur urbains. Voilà, et donc en gros, on fait comme si ça existait et que la ville le mettait en place. Mais de l'écoute à l'action, voilà comment je fais ce lien dans la recherche-action. Pour incapaciter aussi, et pour moi, la simulation, dans ces cas-là, collective, c'est de la stimulation d'une capacité à agir. Et même si, ben voilà, en tout cas, on l'a bien montré là, l'année dernière, comment tout le livret de ce qu'on avait proposé, c'était bien utile, les îlots de fraîcheur. Mais voilà comment, en fait, j'y vois une contribution sociétale. Et le dernier exemple, ben, c'est là aussi pour un peu diversifier les médias, les médiums, parce qu'on avait discuté de ça aussi un peu. Et puis, le dernier projet, c'était aussi, je vous ai parlé de recherche participative avec les étudiants. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup sur les enjeux de la transition écologique en lien avec les technologies. Là, je faisais un cours cette année, Issues on Technology. Eh bien, moi, je ne sais pas le faire autrement que de le faire aussi par le faire critique, hein, par l'éco-critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, même en faisant des conférences un peu publiques. Voilà, quand vous faites une conférence sur les enjeux écologiques, ça fait quoi? Ça fait qu'au bout de 20 minutes, les gens sont abattus. Alors, soit ils connaissent déjà les enjeux, soit ben, vous faites quoi en fait? Ils sont conscientisés, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? On sait très bien qu'on ne va pas arrêter de scroller du jour au lendemain, même si c'était une invitation justement de la Génération Lumière. Hein. Suspendez le scroll, vous soutiendrez voilà, la cause des enfants du cobalt, par exemple. Mais en tout cas, c'était vraiment cette idée de se dire, mais comment en fait je peux les sensibiliser en montrant toujours qu'on peut développer d'autres trajectoires des technologies. Et ça, c'est ma manière à moi, ma contribution maintenant, quand je travaille sur ces questions-là avec mes étudiants, la part de constat, elle est sur une séance et ensuite je leur présente toutes les théories qui existent déjà, alternatives et aussi les approches en art, en design. Et quand je suis avec des étudiants en design, ben, on le fait par le faire. Donc là, c'était ça l'idée. On est vraiment dans une approche de design fiction. C'est des étudiants qui sont spécialistes en design d'interaction. Et l'idée, c'est de les sensibiliser en fait à la sobriété numérique et en faire en fait une approche de contrainte créative où le design du peu est non pas subi mais choisi par les designers. Donc là, c'est ça le sujet. On est en 2030. Eh bien, en fait, on ne peut plus utiliser d'écran. Donc, vous allez devoir repenser le partage et l'écoute de la musique, parce qu'en 2030, il y aura encore du fun, on voudra quand même écouter de la musique. C'était aussi pour quand même les projeter dans ce futur, mais avec quelque chose de désirable. Mais, challenge au niveau du design d'interaction, vous ne pouvez pas avoir d'interface comme ça, visuelle et en produire. Et vous devez vous appuyer sur du déjà là. Projet donc qui a été fait en collaboration avec le Fab Lab de Nîmes. Donc on avait un partenariat design, maker, donc ils avaient la possibilité, les étudiants, d'aller au Fab Lab aussi. Et à la fin, ils ont créé des vidéos. Et la vidéo, moi, je trouve que c'est un média intéressant à partager parce que ça rend possible un produit. En fait, il ne marche pas, ça n'existe pas. Mais la vidéo, elle est vraiment hyper fun. Et à la manière des codes d'Apple, elle rend désirable un futur où, ben voilà, en fait, on réutilise une Game Boy, par exemple, pour faire un instrument de partage. Et finalement, les étudiants, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'au-delà de l'objet, parce qu'eux, ils étaient sur les enjeux de design, d'interaction et d'objet, ils ont repensé tout le service de diffusion et de distribution de la musique, à l'heure où on voit que les plateformes numériques, c'est des super belles opportunités aussi pour des jeunes artistes de se lancer, mais aussi d'être noyés, parce qu'il n'y a plus ces intermédiaires, si on est dans une major ou pas. Et eux, ils réinventaient un système local de partage, en fait, qui donnait aussi d'autres chances. Donc, c'était hyper intéressant parce que là, la contribution, elle était territoriale, sociale, voire même politique, tout en maintenant une certaine forme de numérique, mais dans un futur aux ressources contraintes, quoi. Et là, en particulier, ce projet, il m'a touchée parce que j'avais parlé de cette métaphore de ouvrir la boîte noire. Et ils s'en sont servis à la fois en termes plastiques, d'où la coque transparente, plus l'idée de réencapaciter l'usager en faisant un objet qu'il peut réparer. Voilà, donc c'est quand même une très belle appropriation. Ben voilà, dans l'espace de cet atelier, au moins ils auront imaginé ça. Et c'est le dernier exemple.